Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, nous allons poursuivre la série que nous avons commencée le jour du Seigneur précédent sur l'actuel mouvement charismatique. J'ai été très intéressé par la réaction au cours des dernières semaines à notre discussion au sujet du 13e chapitre de 1 Corinthiens, et puis à notre message du dernier jour du Seigneur, et je suis très encouragé. Je me rends compte qu'il y aura peut-être des gens qui ne comprendront pas nos motivations et seront en désaccord avec nous, mais cela a été très très minimal jusqu'ici. Et d'un autre côté, il y a eu beaucoup d'encouragement de la part des gens qui disent ceci: nous ne comprenions pas, et nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir un regard biblique sur certaines de ces questions. Je remercie donc le Seigneur pour les orientations des anciens. Ce sont en fait les anciens qui, de manière unanime, sont tombés d'accord pour que ceci se passe. Nous répondons donc à cela. Vous y réagissez, et c'est bien. Maintenant, nous avons dit la dernière fois que nous avons ressenti qu'il était important de parler de ce qui ne va pas dans le mouvement charismatique. À n'importe quelle époque de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu ces choses qui apparaissent comme des mouvements sur scène. Chaque personne qui étudie ne serait-ce que de manière superficielle l'histoire de l'Église se rend compte que des tangentes, aberrations et mouvements divers et variés se produisent le long du parcours de l'Église. Et il est plutôt facile d'en dresser une carte à travers l'histoire de l'Église. Cependant, il n'y a encore jamais eu un quelconque mouvement qui ait constitué une tangente, une déviation biblique, et qui ait eu l'impact ou la dévastation que celui-ci a sur l'Église évangélique. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement puissant. Il a un poids énorme à cause des médias de notre monde actuel, du XXe siècle, qui rendent la transmission de ces idées tellement facile et en fait si inévitable pour une personne moyenne. C'est donc quelque chose de très très prépondérant. Et nous savons tous que le mouvement charismatique, en tant que tel, est en train de balayer le globe. Si vous pensez que c'est uniquement en Amérique, alors vous vous trompez. Il est présent à travers le monde. Il se trouve en Amérique du Sud. Il est en Orient. Il est présent partout où l'Église existe, ce qui fait que ce mouvement avance à grande vitesse. Depuis 1900, lorsqu'il a commencé, le mouvement pentecôtiste tel qu'il a été défini au cours des premières années s'est développé depuis 1900, au-delà des courants dominants du christianisme évangélique. Tout le mouvement pentecôtiste, tel qu'il était connu alors, était réservé à quelques lignes confessionnelles, autres que les dénominations évangéliques de la ligne principale. Mais c'est en 1960 qu'un nouveau jour a été annoncé et que le mouvement pentecôtiste a fait son entrée en force dans les principales dénominations, et en commençant ici par l'église épiscopale de Van Nuys, la ligne dénominationnelle a été fissurée, et comme le dit John Sherrill dans son livre, il parle en d'autres langues. Les murs se sont effondrés, et au sein du dénominationalisme principal, épiscopalien, méthodiste, presbytérien, baptiste, luthérien, et ainsi de suite, ce mouvement a fait son entrée, et aujourd'hui, il ne s'appelle plus tout à fait mouvement pentecôtiste par ses plus modernes opposants, mais plutôt le mouvement néo-pentecôtiste, ou bien le mouvement charismatique, et on peut voir la différence. Techniquement, un charismatique est une personne après 1960, un pentecôtiste est une personne antérieure à 1960, ou alors un charismatique, c'est quelqu'un qui a fait cette expérience au sein d'une dénomination de ligne principale, ou une église évangélique de la ligne principale, ou alors une église catholique, tandis qu'un pentecôtiste est quelqu'un qui est attaché à l'Assemblée de Dieu, ou les Four Square, ou le pentecôtisme uni, ou toute autre dénomination pentecôtiste. Mais à présent, cela est entré dans l'image globale du christianisme. Il ne s'agit plus d'une dénomination distincte, mais plutôt une expérience qui transcende toutes les délimitations dénominationnelles. Et il existe dans ce mouvement un certain nombre d'éléments communs qui ne relèvent pas de la théologie, puisque, Comme nous l'avons indiqué la semaine dernière, il n'existe aucune doctrine fondamentalement parlant. Il y a cependant des similitudes basées sur l'expérience. Par exemple, certaines églises sont connues comme des églises charismatiques et elles présentent comme unique exigence fondamentale pour en devenir membre du personnel le fait d'avoir eu l'expérience commune. Il y a des universités et séminaires où la seule expérience pour devenir membre de la faculté est d'avoir fait l'expérience commune. La doctrine ne constitue pas un critère de sélection. Et ainsi donc, cela se passe autour de nous, où l'expérience commune crée un réseau de personnes charismatiques. Et certains appellent cela le plus grand réveil de l'histoire de l'Église. Et nous agirions comme des autruches qui enterrent leur tête dans le sable. Si nous nous contentions de contourner cette question, nous avons vraiment besoin d'en parler, surtout à la lumière de notre étude de 1 Corinthiens, quand nous parvenons au chapitre 12 à 14. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À présent, je vais être le premier à dire que partout où l'Évangile est prêché, certaines personnes seront sauvées. Et pour la plupart d'entre eux, les gens du mouvement charismatique aiment le Seigneur Jésus-Christ et croient au salut par la grâce, à travers la foi. Et ils le proclament, et les gens parviennent au salut, et je rends grâce à Dieu pour cela. Je sais que Dieu peut utiliser des gens qui sont moins que parfaits, puisqu'ils m'utilisent, et qu'ils vous utilisent. Nous sommes donc dans la même barque. J'essaie juste de relever, non pas que ces gens soient désespérément, inutilement imposés au corps du Christ, mais tout simplement qu'ils sont dans l'erreur sur un point. Et nous tous, nous pourrions nous retrouver avec des talons d'Achille, des points vulnérables, qui seraient problématiques pour nous, et que nous devrions traiter comme tels. Nous essayons simplement de souligner là où se trouve l'erreur, et c'est pour cette raison que nous avons choisi comme titre « Qu'est-ce qui ne va pas au sein du mouvement charismatique ?» Non pas que tout ce qu'il y a dans ce mouvement soit mauvais, puisqu'il ne peut pas être mal d'exalter Jésus-Christ. Ce n'est pas mal de croire en la Bible, comme ils disent le faire, bien que leur manière de le manifester soit quelque peu en deçà de nos attentes. Et nous sommes donc reconnaissants à Dieu que, par sa grâce, et la véritable prédication du salut, à travers le Seigneur Jésus-Christ, les gens parviennent au salut. Et je pense qu'il y a peut-être des chrétiens qui arrivent à un point où ils reconnaissent une nouvelle réalité en Christ, et qui prennent des engagements qu'ils n'avaient peut-être encore jamais pris avant. Cependant, en dépit du bien qui en résulte, en dehors de ce qui semble être positif, il y a une erreur flagrante au sein du mouvement, et l'erreur progresse à une vitesse qui échappe au contrôle, et cela produit des chrétiens très confus, des saints très intimidés, et des églises sont fracturées. À présent, les problèmes tels que nous avons commencé à les examiner sont suffisamment sérieux pour que nous les abordions dans un certain niveau de détail. Je pense vous avoir indiqué la dernière fois que nous allions examiner environ 20 de ces problèmes. Mais ce premier problème est tellement fondamental que nous sommes en train de prendre quelques semaines rien que pour le présenter, parce que c'est ce qui, à mon avis, constitue le nœud de la question. Et autant que je sache, et dans tous les livres que j'ai lus, cela n'a jamais été traité. Il s'agit de la question de la révélation. Le premier problème que nous avons relevé pour vous la dernière fois en lien avec le mouvement charismatique est la question de savoir s'ils conçoivent l'autorité absolue de la révélation biblique, cette parole de Dieu complète qui a été transmise aux saints une bonne fois pour toutes. Mais au-delà de cela, toutes les autres choses doivent également être portées à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons, dès le départ, établir l'autorité de ce livre. L'hystérie charismatique, telle qu'elle semble se propager à grande vitesse à travers le monde, doit s'arrêter pour examiner la parole de Dieu, et non se contenter de courir en avant de manière incontrôlée, étant donné que l'Écriture constitue le test de toute chose. Maintenant, si l'Écriture constitue le test de toute chose, alors cela suppose quelque chose de fondamental, et ce qui est que la parole de Dieu est considérée comme la norme, et c'est ce que nous essayons d'établir clairement et soigneusement. Nous sommes convaincus, et nous l'avons vu la semaine dernière, que Dieu nous a donné le canon complet. Le terme grec « canon », qui veut dire « règle » ou « norme ». À l'origine, cela est venu de la racine d'un mot qui était en lien avec un credo, et ce credo était employé pour mesurer les choses. Et il est devenu usuel d'appeler tout ce qui servait de règle de mesure un canon. Ainsi, le standard de la parole de Dieu est juste là. C'est le canon, la règle de mesure. Maintenant, nous croyons que cela a été établi, que Dieu l'a complété, que la Bible est terminée, que l'Écriture est achevée, qu'il s'agit de sa révélation, et qu'il n'y a rien en plus. C'est complet, c'est efficace, c'est suffisant, c'est inhérent, c'est infaillible, Cela constitue l'autorité, et c'est contraignant, et cela détermine et évalue toute autre chose. Lorsque nous avons la Bible, nous avons l'Ancien Testament qui a été écrit par les prophètes. Nous avons le Nouveau Testament rédigé par les apôtres et ceux qui leur étaient étroitement associés, et la Bible se veut donc exhaustive. Je me dépêche d'ajouter que tout au long de l'histoire, et même par rapport aux écrits bibliques, des livres fallacieux ont été présentés comme faisant partie de l'Écriture. En fait, si vous avez fréquenté l'Église catholique, vous savez qu'au milieu de la Bible catholique, il y a une section de livres qu'on qualifie d'apocryphes. Les apocryphes prétendent constituer l'Écriture. Il est très clair que ce n'était pas l'Écriture. Ils comportent des erreurs géographiques, des erreurs théologiques. Ils ne revendiquent ni ne soutiennent d'être produits par les apôtres, qui n'en sont pas du tout leurs auteurs. Ils ne relèvent pas de l'époque du Nouveau Testament. Ils n'appartiennent pas au temps de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'ont pas été écrits par les prophètes, et ceux qui sont reconnus comme messagers de Dieu. Seule l'Église catholique romaine a accepté les livres apocryphes comme partie intégrante de l'Écriture. L'Église elle-même ne l'a pas fait, et cela n'a jamais été établi dans l'histoire jusqu'à l'adaptation que l'Église romaine en a faite, tellement la différence est flagrante. La distinction est si évidente. Au cours de la rédaction du Nouveau Testament, il y a eu plusieurs livres qui, paraît-il, ont été refilés à l'Église, de tout genre, l'Évangile selon Pierre, et ainsi de suite, les légendes coptes, et plusieurs faux livres, mais l'Église n'a jamais eu de pierre d'achoppement, elle n'a jamais eu de problème, n'a jamais eu à prendre une quelconque décision. C'était si évident ce qui avait été inspiré par Dieu, et ce qui ne l'avait pas été. Maintenant, le canon de l'Ancien Testament a été bouclé aux environs de 400 avant Jésus-Christ. Environ 400 avant Jésus-Christ. Les gens savaient clairement quel livre avait été inspiré par Dieu. C'était facile car, tout d'abord, ils revendiquaient être inspirés par Dieu. Ce sont donc ceux qu'ils regardaient. Et en considérant ceux qui se réclamaient de l'inspiration divine, ils n'y trouvaient aucune erreur. Ils s'apercevaient qu'ils étaient conformes à l'histoire et ils correspondaient à la théologie. Ils étaient en harmonie avec la géographie et avec tout ce qu'ils savaient être déterminant, ce qui fait que tout le monde savait ce qu'était le canon de l'Ancien Testament. Les autres livres ont été rejetés, et la tradition juive dit que la grande synagogue, l'école des scribes, qui a été fondée par Esdras, a finalement rassemblé le canon, et par ailleurs, l'histoire l'a confirmé depuis. Il n'existe pas de livre susceptible de se comparer à la qualité de l'Écriture. Aucun. Ils avaient raison. Et même lorsque nous trouvons d'autres livres anciens, nous savons qu'ils ne peuvent pas s'égaler à l'Écriture. Il en était de même pour le Nouveau Testament. Très clairement, ils savaient quel livre devait être accepté comme faisant partie du Nouveau Testament. Et laissez-moi à présent vous indiquer le test que l'Église du Nouveau Testament a employé pour déterminer cela. Premièrement, ils évaluaient un livre sur la base de sa paternité apostolique. Les livres du Nouveau Testament devaient être écrits par un apôtre ou un proche associé des apôtres. Par exemple, dans le cas de Marc, qui n'était pas apôtre, sa source était Pierre, qui travaillait étroitement avec lui. Luc, qui n'était pas un apôtre, était très proche non seulement du Seigneur, mais également du grand apôtre Paul, qui était un apôtre. Les livres du Nouveau Testament ont été rédigés par des apôtres ou des associés des apôtres. Jésus lui-même définit clairement cela dans un certain nombre de passages que je vais vous indiquer. Jean 14, 26, constituant le premier à le dire. Et ici le Seigneur se trouve dans la chambre haute, la nuit précédant sa trahison, et la nuit de sa trahison, et avant sa crucifixion. Il est dit, « Mais le Consolateur, le Paraclétos, celui qui est appelé à se tenir à côté pour aider, l'Avocat divin, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, tout d'abord, braves gens, et vous devez comprendre cela. Ce verset n'est pas adressé à tous les chrétiens. Il s'agit d'une déclaration que Jésus fait aux personnes qui allaient être auteurs du Nouveau Testament. Et il leur dit, observez encore. Il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment pensez-vous que ces gens qui ont rédigé les évangiles ont été capables de se rappeler tous les incidents et de toutes ces conversations que Jésus a eues? Et de nous donner une série de quatre évangiles infaillibles et inhérents, qui constituent une autorité. Le seul moyen, et c'est que l'œuvre du Saint-Esprit a accompli la promesse de Jésus dans Jean 14, 26. Ils ont bénéficié du service divin du Saint-Esprit, qui leur donnait de se souvenir. Et cela est vrai avec l'apôtre Paul, qui encore et encore cite Jésus dans la rédaction de ses épîtres. Nous l'avons vu au 7e chapitre de 1 Corinthiens, et grâce au ministère du Saint-Esprit, il s'est souvenu absolument et exactement de tout. Regardez le 16e chapitre de Jean et le 13e verset. Et une fois de plus, c'est la même chose qui est dite au même groupe spécial d'hommes. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà une autre indication du Seigneur, selon laquelle ceux qui allaient écrire le Nouveau Testament allaient le faire sans erreur. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. En d'autres termes, Dieu allait donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait transmettre à l'auteur, et ce qui allait être écrit allait constituer la parole divine de Dieu. C'est donc ainsi que les apôtres sont des écrivains de la Bible. Jésus l'a dit, en leur donnant la commission dans ces deux passages de l'Écriture. Cela s'est réaffirmé par ailleurs dans 2 Pierre chapitre 3 et verset 2. Et voici ce que Pierre dit en commençant au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et il dit ensuite ceci, 2 Pierre 3, verset 2, « Afin que vous vous souveniez, observez à présent, les choses annoncées d'avance par les saints prophètes. » Je considère cela comme une référence à l'Ancien Testament. Annoncées d'avance par les saints prophètes, les auteurs de l'Ancien Testament, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseignés par vos apôtres. Remarquez à présent dans ce passage, Pierre établit deux catégories d'écrivains de la Bible, les saints prophètes, Ancien Testament, les apôtres du Seigneur et Sauveur, Nouveau Testament. Vous pouvez donc voir ce que Jésus dit en Jean et confirmé par Pierre, que la paternité du Nouveau Testament était reliée aux apôtres, soit par l'écriture directe de l'apôtre ou alors par quelqu'un qui lui était étroitement associé et qui travaillait aux côtés d'un apôtre. Et nous voyons ainsi qu'il y avait une indication claire du fait que la rédaction de l'Écriture allait s'arrêter avec la fin des apôtres. Et c'est ce qui est signifié dans Éphésiens 2, verset 20, lorsqu'il est dit « Vous, c'est-à-dire l'Église, avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils constituaient la fondation. Ils ne poursuivent pas leur course, et nous l'avons déjà dit. Lorsque vous construisez un bâtiment, vous posez la fondation une fois. On ne continue pas de poser la fondation jusqu'au 20e étage. On la pose une fois pour toutes, et ensuite on construit par-dessus. Il y a eu des apôtres et des prophètes une fois. Ils ont écrit une fois. Leurs écrits ont été transmis aux saints une fois. Et l'Écriture a par conséquent été achevée. Cependant, il y a plusieurs exemples d'auteurs du Nouveau Testament qui font allusion les uns aux autres comme ayant été inspirés par l'Esprit de Dieu pour écrire la parole de Dieu. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Regardez 1 Timothée 5, verset 18. Il y avait une camaraderie entre ces écrivains dans le Nouveau Testament. Il y avait l'unité. Il y avait une unicité. Il y avait la conscience du fait qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui n'avait encore jamais été fait et qui n'allait pas se répéter. Il y avait un caractère unique. Mais je pense que le plus intéressant, c'est quand vous lisez ces mots dans 1 Timothée 5 au verset 18. Observez à présent. Car l'Écriture dit. L'Écriture dit. Observez à présent. Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. À présent, cette écriture est tirée de Deutéronome 25, verset 4. Observez à présent, 25, verset 4, ne le cherchez pas. Ça dit la même chose. Cela signifie, payez le prédicateur. Un jour, je prêcherai dessus, car l'écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et remarquez qu'il y a une autre écriture, et l'ouvrier mérite son salaire. Vous savez d'où vient cette citation? Écoutez ceci. Luc 10, verset 7. Vous dites, « Qu'y a-t-il de si important à ce sujet ?» Ce qui est significatif, c'est que Paul revendique un droit égal à être l'écriture Luc, puisqu'il s'agit de lui, et Moïse, qui a écrit Deutéronome. Vous voyez, voilà le cas d'un auteur du Nouveau Testament qui authentifie un autre auteur du Nouveau Testament au point d'appeler cela l'écriture. Quand Luc écrit, cela constitue autant l'écriture que lorsque Moïse écrit. Ce qui fait que le Nouveau Testament s'auto-authentifie. Voilà Paul en train d'authentifier Luc. Et si Luc est authentique, alors Luc est authentique, et les actes des apôtres sont authentiques, d'accord? Parce que c'est lui qui a écrit les deux livres. Paul appelle les écrits de Luc l'Écriture. Regardez avec moi à 2 Pierre, une fois de plus, chapitre 3, verset 15. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Et Pierre est en train de clore sa seconde épître. Il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Pratiquement la même chose qu'au verset 9 là-bas. La raison pour laquelle le Seigneur tarde, c'est à cause du salut et non de l'impuissance. Comme, observez ceci à présent, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres. Quoi ? Écriture. Remarquez-vous à présent quelque chose ici. Pierre est en train de parler de Paul, et toutes ses épîtres constituent l'Écriture, exactement comme le reste de l'Écriture. Il y a donc Paul qui accrédite Luc. Vous avez Pierre qui accrédite Paul. Nous avons donc déjà résolu le problème. La Bible, comme nous le savons, est composée de Luc et les Actes, et en réalité, vous pouvez mettre tous les récits des évangiles dans ce groupe, parce que Luc constitue l'un des évangiles. Et si Luc est authentifié, alors les autres évangiles le sont, puisqu'ils commentent sur le même matériel. Nous avons donc les évangiles dans les Actes. À présent, nous avons les 13 épîtres de Paul, qui sont désignées Écritures ici même au verset 16. Et l'apôtre Paul atteste cela dans Galates 1, lorsqu'il dit « Ce que j'ai écrit, ce que j'ai appris, et ce que Dieu m'a accordé n'est pas venu d'un homme, mais directement de lui. » Regardez Jude, verset 17. C'est intéressant. Paul est en train de corroborer les évangiles dans les Actes. Pierre confirme Paul, et maintenant il y a Jude qui corrobore Pierre. Jude 17. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ceci, mes amis, est tiré de 2 Pierre. Jude authentifie Pierre. Vous constatez donc qu'il y a une camaraderie apostolique. À présent, le seul qui reste, Jacques, nous n'avons pas pris le temps de développer cela. Le seul autre auteur majeur du Nouveau Testament serait Jean, n'est-ce pas? L'évangile de Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, le livre de l'Apocalypse. Vous dites, s'agit-il d'une authentification? Oui, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, vous avez 7 lettres adressées aux églises. Ne vous dérangez pas cependant à les rechercher, mais à la fin de chacune de ces lettres, il est dit ceci. Voici ce que dit celui, et cela fait allusion à Jésus-Christ. Voici ce que dit celui, et il dit également, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit. Jean dit donc, je suis en train d'écrire ce que Christ déclare, et qui m'est transmis par l'Esprit. Ainsi Jean revendique avoir reçu l'inspiration du Saint-Esprit. Plus loin, dans le livre d'Apocalypse, 21 verset 5, c'est ça. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Apocalypse 19, vous avez aussi cela. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Jean est donc confirmé en tant qu'auteur inspiré. Pierre est confirmé comme auteur inspiré. Il en est de même pour Luc. Et c'est le cas de Paul. Et vous pouvez voir qu'il y a tous ces auteurs du Nouveau Testament qui s'auto-authentifient. Il y a une bande d'apôtres et les associés de cette bande qui sont responsables, la fraternité des auteurs du Nouveau Testament. Et bien aimé, voilà les frontières. Telles sont les limites de l'Écriture. Lorsqu'ils ont fini, ça s'est terminé et c'est tout. La clé est donc l'autorité apostolique, la paternité apostolique. Deuxièmement, le second test que l'Église primitive a appliqué à ce sujet était le contenu. Il ne voulait pas seulement savoir si un apôtre ou un associé qui savait être associé à un apôtre avait écrit, mais il se préoccupait également de connaître le contenu des écrits concernés. Par exemple, dans Actes 2, verset 42, la toute première fois que l'Église s'est réunie, la toute première fois que l'Église s'est jamais rencontrée, il est dit, il persévérait dans quoi? L'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Leur second test était le contenu. Les écrits cadraient-ils avec la doctrine apostolique? Car peut-être quelque chose aurait pu arriver, aurait pu être écrit. Cela aurait pu sembler émaner de Paul et être revendiqué par Paul et contenir un début d'infection hérétique et être vraiment quelque chose de faux. Il pouvait ainsi en vérifier la doctrine, et si cela n'était pas conforme à l'engagement des apôtres, eh bien, cela ne passait pas le test. Et comme il est merveilleux de relever, en étudiant les premiers canons, qu'il n'y a eu aucune occasion, au cours de ces premiers canons, où on n'ait jamais accepté un livre autre que le Nouveau Testament légitime. Il leur a fallu du temps pour tous les intégrer, mais ils ne se sont jamais trompés. Les aberrations doctrinales étaient beaucoup trop claires. Vous pensez bien que lorsque Satan cherche à faire entrer une aberration, le livre ne se présentera pas tout à fait comme il devrait être. Troisièmement, le troisième test que l'Église primitive a appliqué au livre canonique du Nouveau Testament était « Cela a-t-il été lu dans les Églises ?» Cela a-t-il été lu dans les Églises ? Ce principe a été souligné à plusieurs reprises par les premiers pères de l'Église, la première génération après l'Église. En d'autres termes, le peuple de Dieu a-t-il accepté cela ? L'a-t-il lu dans leur service d'adoration ? L'ont-ils intégré dans leur vie ? Ce qui indiquait que l'Esprit de Dieu avait béni cela dans leur Église. Et les gens ont-ils été enseignés par cet écrit et ont-ils été bénis par son enseignement ? Si cela portait ce cachet, alors tout allait bien. Il y a donc l'autorité apostolique. Il y avait donc la cohérence absolue à la doctrine apostolique. Et il fallait quelque chose qui avait été lu à l'Église et qui avait passé l'épreuve de l'Église pour être reconnu comme la parole de Dieu qui sort avec puissance et pénètre le cœur. Et le quatrième test était la reconnaissance et l'usage par la génération qui vient après l'Église primitive, les pères de l'Église. Une fois qu'ils l'avaient vu et l'avaient évalué et l'avaient jugé, cela a été établi. Et bien sûr, au moment où on arrive en 383, et que la Vulgate de langue latine est imprimée, et c'était « vulgaire » signifie la langue du peuple, la langue commune, la langue courante. La Bible a été codifiée, pour ainsi dire, et déposée entre les mains du peuple, et chacun des livres s'y trouvait, et seuls les bons y étaient. Cela allait de soi, cela clôt tout débat, le canon était constitué. Vous dites oui, mais on pourrait peut-être y ajouter des choses. Eh bien, Apocalypse 22 dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Les gens disent « Oui, mais cela signifie ajouter des choses au livre de l'Apocalypse. » Oui, bien sûr. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Si vous ajoutez des choses à l'Apocalypse, c'est que vous aurez ajouté des choses à la Bible, n'est-ce pas? Le livre de l'Apocalypse a été le tout dernier livre à être écrit. Vous ne pouvez pas y ajouter des choses. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, il sera frappé des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Vous dites, pourquoi tirez-vous cela de long en large, John?
Parce que je crois que c'est précisément à cet endroit vital
que les charismatiques s'égarent, sont dans l'erreur. Quelle est la révélation de Dieu? Cela constitue un défaut majeur dans le mouvement. Ces chères personnes, et j'aime ces gens, revendiquent aimer la Bible, défendre la Bible, étudier la Bible. Mais elles prétendent aussi aller au-delà de la Bible, et là-dessus repose une erreur fondamentale. « Tout va bien, disent-ils, tant que ça marche. » Un pasteur a déclaré, vous savez, « J'ai entendu cela sur une cassette. » Il disait, « Nous nous étions contentés d'enseigner la Bible, et jamais Dieu n'avait rien fait d'extraordinaire dans notre Église, jusqu'à ce qu'un jour l'Esprit de Dieu fasse son entrée. » Et j'ai pensé, « Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie-t-il que la Bible seule ne suffit pas ? Il faut chercher à mettre le doigt sur ce que signifie l'Esprit de Dieu a fait son entrée. Qui garantit cependant qu'il s'agissait bien de l'Esprit de Dieu? Qu'en est-il des révélations supplémentaires? La Bible est-elle suffisante? Ou avons-nous besoin de plus? Eh bien, comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, les charismatiques prétendent que Dieu continue de se révéler. Vous savez, il n'y a rien de nouveau à cela, soit dit en passant. L'Église catholique romaine fait cette revendication depuis des siècles. Vous voulez lire un livre intéressant? Il y en a en librairie. Procurez-vous le livre de Benjamin Warfield sur « Les faux miracles ». Il s'agit d'une véritable gifle, un livre fantastique. Apprêtez-vous pour des choses lourdes. Il s'est contenté de cataloguer pour l'histoire de l'Église tout entière les visions et les révélations, etc., qui ont construit le catholicisme romain. Et aujourd'hui, le mouvement charismatique constitue davantage un parallèle qui revendique des visions, et autres. L'un de nos anciens me disait ce matin que la joueuse de tennis Margaret Court, qui est une fervente catholique très dévouée, a récemment reçu une apparition miraculeuse de la Vierge. Vous voyez donc que ce n'est pas courant qu'avec les charismatiques. L'Église catholique romaine le revendique depuis des siècles, et ces révélations supplémentaires qu'ils n'ont cessé de recevoir constituent la chose qui a construit et construit et construit ce tas de traditions qui accompagne l'autorité de la parole de Dieu et trouble le sujet. Et bien entendu, Nous avons même vu depuis que Rodman Williams, qui est le président du séminaire Melodyland, déclare « La Bible constitue simplement un témoignage du genre de révélation que Dieu accorde aujourd'hui. Il ne s'agit que d'un modèle pour ce que Dieu est en train de faire. Et j'ai donc posé la question la semaine dernière, où se termine la Bible ?» David Wilkerson arrive et écrit une chose appelée « La Vision ». Je l'ai entendu donner cela de mes propres oreilles. Je l'ai vu en version imprimée. Il prétend qu'il s'agit de la parole de Dieu, et elle fait autorité. Il me semble intéressant de relever qu'un autre monsieur à la même conférence luthérienne, à Minneapolis, a reçu une vision, et ils ont marqué leur désaccord. À mon avis, le coût d'un tel mysticisme et subjectivisme est trop élevé. Chacun fait ce qu'il pense que Dieu lui dit de faire, et le caractère unique et central de la parole de Dieu est en train de se perdre. Et je vais vous dire quelque chose, braves gens. Nous sommes en train d'évoluer vers un christianisme mystique. Nous avançons vers le genre de choses qu'Amos a enduré lorsqu'il a déclaré dans Amos 8 au verset 11. « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils veulent aller au-delà de l'Écriture. Nous avons connu un réveil de l'Écriture. Vous savez, tout le monde est en feu au sujet de l'Écriture. Mais nous avançons. Nous évoluons si vite. Nous allons aller tout droit par l'Écriture. Et maintenant, lorsque vous visitez une librairie chrétienne moyenne et que vous regardez les livres sur le christianisme, vous en trouverez environ 65% qui portent sur l'expérience d'un individu plutôt que sur la théologie, la doctrine et autre chose. La perception charismatique, bien que cela ne soit pas tout à fait reconnu ainsi, fondamentalement ainsi, n'est pas la vision historique et orthodoxe de l'Écriture. C'est le subjectivisme néo-orthodoxe. C'est le mysticisme. Il n'est pas possible de renoncer à la réforme, sola scriptura, sans défier la revendication que la Bible fait à son propre sujet et récolter de terribles résultats. Je veux dire que je vous indiquais la semaine dernière que j'allais faire ceci, et je vais le faire. Tous les faux systèmes qui existent sont arrivés à travers une révélation qui surpasse la Bible. Le saviez-vous? Tous sans exception. L'unique solution que Dieu avait de se protéger de tout cela constituait à s'assurer de délivrer ceci aux saints, une bonne fois pour toutes, et de dire « c'est bon, je n'ai plus besoin de le refaire ». Quel que soit ce que le Seigneur a fait, on n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit, et on ne peut pas non plus en retrancher. D'accord? C'est complet. Ensuite, quand les gens arrivent et disent « Eh bien, c'est merveilleux que vous ayez Jésus. Cependant, il vous faut quelque chose de plus. » Et je vous dis « Eh bien, de quoi puis-je avoir besoin de plus ?» Éphésiens 1, verset 3 dit « Que j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'y a-t-il en dehors de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ? Il y a d'autres bénédictions spirituelles ? Elles ne se trouvent pas dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez toutes ces choses. Permettez-moi à présent de regarder cela avec vous. Rien que pour une minute. Examinons le catholicisme romain. D'où cela est-il venu ? Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin serait celui qui aurait systématisé la doctrine romaine. Il a vécu de 1225 à 1274, le théologien le plus célèbre de la scolastique catholique. Il déclare dans la première section de son Summa Theologica que l'écriture sacrée est composée des textes bibliques et des engagements des pères et des docteurs. Vous voyez un problème avec cela, les textes bibliques et les enseignements des pères et des docteurs. La tradition, déclare le catholique romain français Georges Tavard, je cite, était le débordement. Il s'agissait de la tradition. La tradition était le débordement de la parole en dehors de l'écriture sacrée. Son contenu était les autres écritures à travers lesquelles la parole s'est faite connaître. Fin de citation. Ainsi Tavard dit, il y a les écritures et les autres écritures. Et les autres écritures sont des débordements qui sortent de la parole. Albert Piaget, 1490 à 1542, a dit ceci, citation, le message apostolique de l'Église primitive qui a été transmis à travers la succession des pères et des évêques, que ce message a été transmis, par écrit ou non, constitue les Saintes Écritures. Fin de citation. Les Saintes Écritures, dit-il, c'est le message apostolique à l'intention de l'Église qui a été transmis aux pères et aux évêques. Qu'il l'ait écrit, ou qu'il ne l'ait pas écrit. Où finit la Bible? Elle ne finit jamais. Karl Schottgier, de 1463 à 1527. J'aimerais vous montrer que ce n'est vraiment rien de nouveau. C'est de là qu'est venu le romanisme. Il a dit ceci. Une révélation intime du Saint-Esprit est quelque chose qu'on peut expérimenter au quotidien, une fois qu'on le sait, sans l'ombre d'un doute. Cela est aussi contraignant que l'enseignement qui est sorti de la bouche même du Christ. Fin de citation. Vous voyez, c'est l'Église romaine. Lorsqu'ils reçoivent des révélations quotidiennes, cela a autant de pouvoir. C'est aussi engageant, c'est aussi contraignant que les paroles de Jésus dans la Bible. À présent, vous voyez où s'arrête la Bible. C'est pour cela qu'ils ont le genre de choses que nous voyons au sein du catholicisme romain. La mariolatrie, la canonisation des gens et toute la fausse doctrine qui s'est développée autour de la vérité. Le 8 décembre 1854, la bulle pontificale Ineffabilis Deus a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, Pie IX. C'était son époque. Voilà ce qu'il a dit, je cite, « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Marie est née exempte du péché originel. Ceci est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Fin de citation. Révélée par Dieu où? Dans la Bible? Non. Pas dans la Bible. Où? En dehors de la Bible. Cela fait partie de l'autre écriture. Voyez-vous, quand on commence à avoir d'autres écritures, vous voyez ce qui arrive. Le 1er novembre 1950, la Constitution, Munificentissimus Deus, Dieu très munificent, a dit ceci. Une autre bulle papale, une autorité absolue. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. C'est pourquoi, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Fin de citation. Si vous refusez que Marie est montée au ciel avec son corps et n'est jamais morte, vous êtes expulsé de la foi catholique. La bulle pontificale de 1950. Vous voyez, pas étonnant que l'Église catholique romaine comporte tant d'erreurs, étant donné qu'elle va au-delà de l'Écriture, et dit ensuite que cela est aussi contraignant que s'il s'agissait de l'Écriture. Où est-ce que tout cela s'arrête? Conduire d'une erreur à une autre, et à une autre encore. Et voyez-vous, c'est ce qui brise mon cœur au sujet des charismatiques, puisque maintenant, nous ne combattons même plus cela à l'extérieur. Nous combattons cela de l'intérieur. Ils sont en train de construire le même genre de choses. Par exemple, voici un exemple classique. L'un des plus grands et plus célèbres leaders du mouvement charismatique est un homme du nom de David Duplessis. David Duplessis est un ancien membre du ministère de l'Assemblée de Dieu, qui est âgé de 71 ans, et qui a été sorti de l'Église de l'Assemblée de Dieu du fait de son implication dans les affaires œcuméniques du Conseil mondial des Églises. Il conserve cependant une importante position dans ce mouvement, et de temps à autre, vous voyez son nom en lien avec ses conférences à travers le monde. Voici ce qui est rapporté dans le Moody Monthly d'octobre 1976 et qui indique une note d'information issue de l'UPI ou l'une des presses. Il est dit ceci. David Duplessis, l'un des principaux protestants charismatiques, est d'accord avec l'Église catholique que lorsque le pape parle, ex cathedra, il déclare la parole infaillible de Dieu. Il dit, je cite Duplessis, « Dieu honore encore le pape en tant que chef de l'Église. » Fin de citation. Depuis quand est-ce que Dieu a jamais honoré le pape en tant que chef de l'Église? Qui est le chef de l'Église? D'accord? Quelqu'un ferait mieux de lui lire Colossiens 1, verset 18. Voici ce qu'il dit d'autre. Je cite, « Le caractère infaillible du pape est exactement ce que Dieu a utilisé pour apporter le renouveau au sein de l'Église catholique. » Et ce renouveau est en train d'ébranler le monde chrétien. » Fin de citation. Duplessis dit, « Le pape est encore la tête de l'Église. Il est infaillible. Et Dieu est en train de se servir de son infaillibilité pour produire le renouvellement dans l'Église. » C'est effrayant, mais voyez-vous, la raison pour laquelle un charismatique assumé peut se tenir sur ce même terrain avec un catholique est le fait qu'ils ont la même perception de l'Écriture. Voyez-vous, ils ont la conception du débordement de l'Écriture, qui continue encore, encore, encore et encore. Méfiez-vous cependant, car bien qu'ils ne l'admettent pas, La vision charismatique de l'écriture n'est pas une perception historique divinement révélée. Elle est essentiellement celle d'un groupe hérétique comme l'Église romaine. Et vous comprenez à présent pourquoi. Ils ont toutes les choses étranges qu'ils ont, la pénitence, le purgatoire, etc., qui n'ont aucune place dans la Bible, mais ont été rajoutées plus tard. Et croyez-moi, les charismatiques sont en train de bâtir exactement ce genre de tradition. Je pense vous avoir dit qu'ils utilisent la phrase « touché par l'esprit ». Je parlais cette semaine à quelqu'un qui est très impliqué dans cette situation. Et il dit « Oh oui, il dit, c'est vital d'être touché par l'esprit. En fait, il ne faut jamais passer plus de 2 ou 3 semaines sans être touché par l'esprit. Et lorsqu'on est touché par l'esprit, on est renversé. Avez-vous jamais vu ces guérisseurs? Ils touchent les gens et ils tombent, vous voyez. Et en fait, quelqu'un me disait qu'ils entrent dans ce genre de situation. Et il n'y a aucune limite à cela. Et cela finit par devenir une compétition pour voir qui tombera le plus souvent. Je dis donc à quelqu'un, « Eh bien, pourquoi faites-vous cela ? Parce que c'est de cette manière que la puissance de l'Esprit descend sur nous, conformément à tel passage de l'Écriture. Eh bien, il n'y a aucune base scripturale. Il n'y a absolument aucune Écriture. Mais vous voyez, cela fait tout simplement partie de la tradition qui est en train de se construire. Par ailleurs, laissez-moi partir de là pour aborder le type de christianisme des modernistes et néo-orthodoxes. Elle se base également sur des révélations qui vont au-delà de la Bible. Pour les modernistes et néo-orthodoxes, la Bible n'est pas tout ce qu'il y a. La Bible constitue un bon modèle, un bon témoignage. La Bible constitue une partie de la parole de Dieu. Quand vous la lisez et que quelque chose vous touche, vous avez la chair de poule spirituelle. C'est alors que cela devient la parole de Dieu pour vous. Et c'est très bien comme cela, et ainsi de suite. Mais Dieu inspire encore les choses, et il continue encore et encore. Ils ont tout genre d'inspiration. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'existe aucune autorité biblique. Les modernistes, les néo-orthodoxes, ne croient pas aux miracles. Ils ne croient pas les... Un Allemand libéral bien connu a décidé après une étude intense de la Bible que seuls 26 versets étaient en réalité véritablement inspirés de toute la Bible. Seulement 26. Mais peu importe ce qui s'est passé pour vous toucher, etc. Vous êtes en mesure de recevoir autant de révélations aujourd'hui. Et ce qui est écrit de nos jours est équivalent à la Bible. Et la Bible n'est vraiment rien de brûlant. Ce n'est rien de spécial. Elle comporte beaucoup d'erreurs. Ainsi, ils veulent recevoir davantage de révélations. Et tout ce qu'on réussit à en tirer, c'est tout simplement le vieux libéralisme. Vous dites, eh bien les charismatiques ne le diront certainement pas. Laissez-moi vous lire une déclaration intéressante. Le magazine de la vie chrétienne, Christian Life Magazine, qui est davantage devenu un promoteur des charismatiques, septembre 1976. Un article de Charles Farah, J.R. de Oral Roberts, University. Voici ce qu'il dit. Maintenant écoutez attentivement ceci. Il est charismatique. Plus les chrétiens évoluent dans le monde du Nouveau Testament, moins ils s'appuient sur la raison et l'expérience comme moyen ultime d'accès au savoir, et de plus en plus sur la connaissance pneumatique ou spirituelle. Je vais cependant faire une objection. La connaissance pneumatique, c'est la connaissance super spirituelle. Il dit en outre, une connaissance qui surpasse toute connaissance, une perception au-delà de toute perception, une certitude au-delà de toute certitude, une compréhension qui surpasse toute compréhension. Fin de citation. Vous savez ce que c'est?
C'est du pur gnosticisme,
du mysticisme. Depuis quand devons-nous aller au-delà de la raison? Depuis quand sommes-nous supposés aller au-delà de l'expérience de la parole de Dieu pour accéder à une connaissance qui soit au-dessus de la connaissance et qui soit super spirituelle? C'est du mysticisme pur. Cela va au-delà de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu comporte une certitude. La parole de Dieu comporte la compréhension. Nous n'avons pas intérêt à aller au-delà de la compréhension.
Nous nous retrouverions très loin de la branche, au milieu de nulle part.
À nous tripoter les doigts avec Hare Krishna. La parole est suffisante, l'esprit est suffisant, Jésus est suffisant. Je ne peux tout simplement pas. Je suis fatigué de toutes ces personnes qui disent que nous devons avoir plus. Plus de quoi? Plus de confusion. Les révélations qui sortent de la Bible conduisent toujours, notez cela, braves gens, elles conduisent toujours et toujours vers l'erreur. Vous voulez être parfait? Étudiez la parole de Dieu. Elle est capable de vous rendre parfait, n'est-ce pas? 2 Timothée 3, verset 16. Vous voulez savoir ce que vous devez faire? Alors apprenez 2 Timothée 2, verset 15. Dispense droitement la parole de la vérité. Vous voulez triompher de la tentation? Faites comme Jésus. Il n'a pas demandé une connaissance au-delà de la connaissance, une certitude qui dépasse la certitude. Il a fait appel à l'Écriture et l'a cité à 3 reprises à Satan, n'est-ce pas? Restez attachés à ce que vous savez être la parole de Dieu, qui fait autorité. Les Mormons, pour vous donner une autre illustration, ont revendiqué que tout leur système était basé sur la révélation qui a été accordée à Joseph Smith. Le 7e article de la foi dit « Nous croyons au don des langues, la prophétie et les révélations. » C'est ça le mormonisme. Ils doivent bien sûr le faire. Sinon, où iraient-ils chercher leurs affaires? Certainement pas dans la Bible. Dans Alma 5, 45 et 46, dans le livre des Mormons, il est dit « Ne pensez-vous pas que je sais ces choses moi-même? Voici, je vous témoigne que je sais que ces choses dont j'ai parlé sont vraies. Et comment, selon vous, sais-je qu'elles sont certaines? Voici, je vous dis qu'elles me sont révélées par l'Esprit Saint de Dieu. C'est l'auteur du livre de l'Alma qui le dit. C'est là l'Esprit de révélation qui est en moi. Vous voyez, il y a le livre des Mormons qui prétend être une révélation issue de Dieu. Et vous savez ce que c'est? C'est chaotique, n'est-ce pas? Prenez la science chrétienne, qui est comme les noix de raisin. Les noix de raisin ne sont ni des raisins ni des noix, et la science chrétienne n'est ni chrétienne ni scientifique. Mais quoi qu'il en soit, Christiane Science Journal, le journal de la science chrétienne de juillet 1975, volume 93, numéro 7, page 361.
J'aimerais que vous sachiez que j'ai reçu cette réplique.
Il s'agit de la science chrétienne, parce qu'il ne s'agit pas d'une philosophie humaine, mais plutôt d'une révélation divine. La raison et la logique de la science chrétienne basée sur la divinité la distinguent de tout autre système. La page 362 dit que Mary Baker, Eddie Patterson Glover, Fry, n'arrivait pas à se décider. Il est dit ceci, « Elle est la révélatrice de la vérité de cet âge. Vous voyez, obtenez davantage de révélations et vous finissez avec ça. » Elle dit, « Je rougirai en pensant à science et santé, avec la clé des Écritures, comme je l'ai fait. » Si cela avait eu une origine humaine, et si j'en avais été en dehors de Dieu l'auteur, je n'étais qu'un scribe. C'est ce qu'elle dit. Dieu a écrit science et santé avec la clé des Écritures. Il ne s'agit pas de mon Dieu, ni du Dieu de la Bible. Prenez les témoins de Jéhovah. Ils disent ceci. La Tour de Garde est un magazine qui n'a pas d'égal sur Terre, parce que Dieu en est l'auteur. La Tour de Garde, 5 avril 1943, page 127. Dieu a écrit la Tour de Garde, vous y croyez? Je ne le crois pas. Ils prétendent que la Bible ne peut être comprise que si on considère la société de la Tour de Garde comme le canal de révélation de Dieu. Vous avez entendu parler de Herbert W. Armstrong Garner, Ted Armstrong, The World Tomorrow, Le Monde Demain, The Plain Truth Magazine, le magazine de la vérité simple, Ambassador College, en Panacea et toutes ces choses. Eh bien, savez-vous d'où tout cela est venu? Et c'est de l'hérésie de la pire erreur qui soit, parce qu'il s'agit du salut acquis par les œuvres. C'est ce qu'il y a de pire, de plus méprisable. Cela est venu parce que Madame Herbert W. Armstrong a reçu une vision d'un ange, et l'ange lui a défini tout le système. Elle l'a dit à son mari, et cela a démarré tout le truc. Vous avez entendu parler des adeptes de Moon. Sun Myung Moon prétend être un messager qui vient de Dieu, avec la vérité ultime. Il est la vérité finale, et il dit... Je suis la vérité ultime, qui n'est pas enregistrée dans l'Écriture. Oui, bien sûr. Il appelle cela nouvelle vérité, non issue de l'Écriture, issue non de la littérature et non d'un cerveau humain. Et il dit, là où elle contredit la Bible, eh bien la Bible a tort. Prenez les enfants de Dieu. Vous vous souvenez des enfants de Dieu. Mose David Berg s'est désigné ainsi parce qu'il était le prophète Moïse des derniers jours. Et il s'est auto-désigné roi d'Israël, David. Il a écrit 500 lettres en 5 ans, et il est dit dans le sujet que Christianity Today, le christianisme aujourd'hui, traite cette semaine, 18 février 1977. Berg, dont on dit qu'il a plusieurs concubines, insiste que ces lettres constituent la parole de Dieu pour aujourd'hui, et surpassent l'écriture biblique, la parole de Dieu pour hier. Cependant, les lettres approuvent des pratiques totalement non bibliques. Fin de citation. Tous depuis Edgar Cayce. Jusqu'à L. Ron Hubbard, et tous les charlatans qui sont entre les deux prétendent avoir des révélations de Dieu. Le Coran, vous n'avez jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler du Coran. Le livre source musulman. Le Coran a été reçu à travers une série de révélations supposées venir de Dieu. Une nuit de Ramadan, environ 610 ans après Jésus-Christ. Mahomet dormait. Un ange est venu. Vous savez de quel ange il s'agissait? C'était Gabriel. Il est venu et a parlé à Mahomet et lui a donné le début du Coran. Et en 650 après Jésus-Christ, c'était terminé. Tout est venu de Dieu par le truchement d'un ange. Au Japon, il y a deux religions majeures qui balaient le Japon. Le Soka Gakkai était la religion majeure. Il y a de cela quelques années, une religion extrêmement puissante, revendiquant avoir eu son origine dans une révélation spéciale accordée à son fondateur. Mais récemment, deux nouvelles, appelées Tenrikoyo et Konkokyo, ont fait leur apparition, et les deux clament venir de Dieu à travers des révélations mystiques. Et j'ai dans mon bureau quelques copies photographiques de l'écriture réelle qui, prétendument, définit ces révélations. Cela va de même pour les gourous et mystiques indiens, et ainsi de suite. Le 20 octobre 1976, le journal The Times a rapporté qu'un homme avait été pendu dans les Bahamas pour avoir tué deux personnes. Il a dit « Dieu m'a demandé de le faire. Exactement le genre de révélation dont nous avons besoin. » Le 19 février 1974, le Times, un ouvrier du bâtiment au chômage, aurait massacré 7 membres de sa famille à l'occasion de son 20e anniversaire. Lundi, parce qu'une voix lui a dit « Rassemble ton troupeau et livre-les-moi ». Le shérif J.P. Wallace a dit « Frank Rios a traversé sa mobile home et une autre à côté avec un fusil de calibre 22, en début de matinée, tuant sa femme, sa petite-fille, sa belle-mère et 4 autres membres de la famille ». Wallace a dit « Rios a dit qu'il entretenait des conversations avec Dieu depuis l'âge de 12 ans et il assistait régulièrement au service de Rose Hill Baptist Church ». Fin de citation. Maintenant, je ne pense pas que cela devrait avoir des conséquences sur l'Église. Mais je vais vous dire. Voici un gars qui pensait recevoir des messages de Dieu, ce qui fait qu'il a assassiné 7 personnes. On commence par flirter avec des révélations et sans tarder, Satan va vous mener directement là où il veut et vous offrir le mauvais truc. Il s'agit d'un terrain dangereux. Écoutez, notre bien-aimé Seigneur Jésus a établi la suffisance de ce livre. Écoutez, Luc 16, et mince, nous devrions savoir ceci, et le savoir comme il faut. Vous vous rappelez que ce gars a dit « Oh, tu sais, viens, renvoie-moi là-bas pour dire à mes frères, d'accord ? Vous vous en souvenez ?» Et Jésus a dit « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Qu'ils écoutent l'Écriture. » Dans Marc 12, verset 24, « Vous êtes dans l'erreur et en voici la raison, a dit Jésus. » Vous ne connaissez pas les Écritures. Votre problème, ce n'est pas que vous manquez de recevoir des révélations spéciales. Votre problème, c'est que vous ne connaissez pas la Bible. Paul nous l'a donnée. Il dit « Que la parole de Christ fasse quoi ? Habite parmi vous, abondamment. » Joseph Dillow rapporte ce témoignage dans son livre. « Lorsque j'étais jeune chrétien, j'ai rencontré un homme que j'appellerai Bill. Bill avait le don de voir des visions et régulièrement, il disait recevoir des révélations directes de Dieu. Il voyait le Seigneur agir dans chaque circonstance concevable de la vie. Chaque impression intérieure était examinée comme étant une directive du Seigneur. Une nuit, il m'appelait à minuit, parce qu'il avait un message du Seigneur et devait le partager avec moi. Bill avait la quarantaine. Il vivait seul, à 1 heure de route en voiture de chez moi. Mais il voulait quand même venir en personne me transmettre le message. J'étais touché par l'intérêt qu'il manifestait. Et lui ai dit que ça irait s'il pouvait attendre jusqu'au matin. Il a insisté, alors je l'ai invité à venir. À son arrivée, il était visiblement secoué. À l'époque, je venais juste de prendre la décision d'aller au séminaire. Bill était très en colère à ce sujet. La lettre tue, disait-il, mais l'esprit vivifie. Et il avait à présent un message du Seigneur m'avertissant de ne pas aller au séminaire. Il lisait Ésaïe, et le Seigneur lui aurait accordé une révélation spéciale qui disait « Si tu vas au séminaire, ta femme sera bouffée par des lions, et tu perdras ton salut éternel. » Fin de citation. C'était plutôt effrayant, mais je n'y ai pas cru. Il dit, il vivait dans un monde de superstition, que sa théologie des langues avait contribué à développer. Le caractère central de la parole était perdu dans sa vie. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Bill, il était en prison, parce que le Seigneur lui avait demandé de désobéir à une autorité établie et de ne pas respecter une ordonnance de zonage. Plutôt triste. J'ai eu une conversation avec Hal Lindsay cette semaine et je partageais avec Hal les choses qui étaient dans mon cœur. Il a dit « Laisse-moi te donner une illustration classique que tu pourras partager avec tes gens. et je vais la partager avec vous éclore. Il y a une femme charismatique en Australie du nom de Miss Viola. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler d'elle. Elle est en train de devenir célèbre à travers le monde en tant que guérisseuse. Elle est charismatique. Elle prétend avoir reçu le manteau de Catherine Kuhlmann. Dans son église, elle est capable de chasser les démons. Elle dit pouvoir chasser les démons que personne d'autre ne peut gérer. Chaque personne de son église a un seau et une serviette devant elle, car, avec tout l'exorcisme qui s'y passe, il y a beaucoup de vomissements. Elle dit que la raison pour laquelle elle parvient à chasser les démons, que personne d'autre n'arrive à chasser, se trouve dans Galates 6 au verset 17 qui dit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Et bien sûr, elle l'interprète très mal. C'était une chrétienne nominale qui n'allait nulle part et son mari est mort. Elle s'est retrouvée seule. Elle s'est mise à rechercher des révélations surnaturelles venant de Dieu et a fini par développer des stigmates. Les stigmates sont des signes de la crucifixion. En d'autres termes, elle s'est mise à développer des cicatrices dans ses paumes de main et sur son côté. Maintenant, il s'agit de quelque chose qui, paraît, aurait été revendiqué par saint François d'Assise. Mais il n'y a aucun moyen de le vérifier. En fait, il est dit dans toute l'histoire que seule une personne l'aurait vue. Quoi qu'il en soit, elle prétend qu'elle a des marques qui constituent des stigmates et que, parce qu'elle porte en son corps les marques de Jésus-Christ, personne ne peut la troubler. Elle peut chasser n'importe quel démon. Eh bien, son église grandit. Et ils avaient besoin d'argent pour un plus grand bâtiment. Et elle a entendu parler d'un type à San Francisco qui est un bon ami de Hall et qui a de l'argent. Et puis un jour, elle est arrivée à San Francisco avec une femme qui est toujours avec elle et un homme qui est un ancien prêtre anglican et qui est toujours avec elle. La femme qui marche avec elle est une prophétesse. Viola parle directement à Dieu, mais Dieu lui parle en retour à travers cette dame qui parle avec une espèce de voix divine. Elles sont donc toujours ensemble et cet ancien évêque anglican est avec elle. Eh bien, ils sont arrivés chez l'ami de Hall, et ils ont dit que Dieu leur avait donné une vision, leur demandant d'aller le voir. Mais ils ne savaient pas vraiment pour quelle raison. Il a dit, « Eh bien, que voulez-vous ? » ?»« Eh bien, nous ne savons pas, mais ce sera révélé. » Eh bien, ils le savaient pertinemment. Et puisqu'ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait, le monsieur appelait Hall et a dit, « Que vais-je faire à ce sujet ? » ?»« Puis-je les amener à toi pour que nous nous asseyions, et tu prends quelques personnes avec toi pour que nous essayions de savoir si ce qu'ils disent est fondé ?» Ils ont donc pris un vol jusqu'à Los Angeles. Hall les a récupérés et ils s'en sont allés. Lui et quelques-unes des personnes qui travaillent avec lui se sont assis et ils ont vu une chose très intéressante se produire. Tandis qu'ils posaient des questions, elle leur a parlé de ses pouvoirs de révélation. Elle leur a parlé de toutes les choses qu'elle était capable de faire, de ses pouvoirs et dons charismatiques. Et Hall m'a dit que chaque fois qu'on lui posait une question et qu'elle avait besoin d'une réponse, il y avait à côté d'elle et pendant toute la durée de la conversation, une pile de papiers d'environ cette hauteur, entièrement cataloguée. Et il s'agissait de toutes les révélations qu'elle avait reçues de Dieu, et elle les parcourait pour tenter de trouver des réponses aux questions qui lui étaient posées. Vous voyez, et Hall a dit, mais c'était fréquemment en désaccord avec l'Écriture. Elle disait, « Non, ce n'est qu'une mauvaise interprétation de votre part. Maintenant, voyez-vous, les amis, c'est la meilleure. Quand on n'aborde pas la Bible comme faisant autorité, on se procure une pile de trucs qu'on garde près de soi. C'est la fin ultime du processus de révélation charismatique. C'est un désastre. C'est une tragédie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je dis ceci. Je me tiens avec le bon vieux Job, qui avait raison dès le début et a dit « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est tout ce dont j'ai besoin. Prions. Père. » Nous te remercions ce matin de consolider à nouveau dans nos cœurs cet immense besoin de prendre un engagement inébranlable envers ta parole, sans hésitation. Nous prions pour nos chers amis, frères, sœurs, qui sont en train de laisser glisser l'autorité biblique et s'entasser des piles de révélations qu'ils peuvent examiner pour soi-disant trouver des réponses. Ce n'est pas correct, Père, et nous savons que tu as fait face à tellement de choses pour nous donner la parole. Et qu'ensuite beaucoup de personnes importantes et pieuses sont mortes pour la préserver. Ce serait tellement tragique que ce soit l'Église elle-même qui la fasse glisser entre ses doigts. Quelle pensée terrifiante! Aide-nous à chérir ta parole, à l'aimer, à l'étudier, à nous en nourrir, à l'enseigner. Nous allons te louer au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, Connectez-vous à une grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.